Bonjour et bienvenue pour les agités de la classe et pour ce numéro 5. Eh bien, il y a avec moi Pascaline. Comment ça va, Pascaline ?
Ça va bien, un petit peu fatiguée après le voyage en train, mais ça va, ça va et toi ?
Mais ça va bien, la forme. J'ai pas de vacances en approche, mais je résiste à l'hiver et je pèle la neige tranquillement. Et il y a aussi Fred. Comment ça va, Fred ?
Salut tout le monde. Bah, ça va bien, quelques rayons de soleil cet après-midi sur Bordeaux, donc ça fait du bien entre les averses.
Alors Pascaline, quoi de neuf toi dans tes classes ?
Eh ben, il y a enfin du nouveau dans mes classes et j'ai commencé depuis la fin du mois de janvier à donner des cours à HEC, donc avec une classe de débutants comme toi, je crois, Seb, non ? Tu as des débutants là cette session ?
Des grands débutants, ouais.
Ouais. Voilà, bah c'est pareil que toi, j'ai des grands débutants, des A1A même et des A1B, donc c'est chouette de retourner à l'enseignement et puis de voir un peu les particularités de ce public de MBA.
Ouais, avec un public international, alors du coup, enfin multinational.
Ouais, multinational, multiculturel, très hétérogène aussi dans sa formation, dans ses stratégies linguistiques. Donc c'est vraiment stimulant et je reconnais que ça change complètement de mon public en Chine, mais bon, je trouve ça motivant. C'est parti donc pour 2 mois au moins à HEC.
Et toi Fred, quoi de neuf en route vers la Corse ?
C'est ça, oui. Pas rien de neuf dans mes classes, pas de classe. Mais en route pour la Corse la semaine prochaine, donc voilà, c'est tout. À moins que vous vouliez que je vous détaille le contenu de mes cartons, ce qui ne serait pas
non,
super palpitant.
Par contre, j'ai vu sur LinkedIn que tu étais intéressé par des missions en ingénierie multimédia, c'est ça ? Tu évolues vers l'ingénierie du multimédia ?
Oui, éventuellement, ouais, j'aimerais me tourner vers ça. Donc, je suis en train d'essayer de préparer un petit peu un portfolio et d'adapter mon CV vu qu'il était plus orienté enseignement, simplement. Donc oui, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés par quelqu'un de motivé, je suis extrêmement motivé. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a de neuf.
Ouais, et avant.
Et toi, Seb ?
Bah, moi, rien de bien neuf. Hein, mon groupe de débutants, on attend toujours nos nouvelles salles de classe qui sont en construction. J'ai visité les lieux. Et pour l'instant, il y a du plâtre et des fils partout. Mais on va voir ça. Et donc, pour l'instant, on est un peu en formule de cours allégée. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans l'expérience, je vous parlerai de cahiers d'activités à faire en autonomie. Mais sinon, rien de bien spécial. Alors, avant de se lancer dans ce numéro, on voulait quand même remercier Kikrine et Guillaume Hirslot. Alors, Kikrine, c'est l'animatrice d'un podcast qui s'appelle Une fille, un podcast, et qui a parlé de nous. Et son invité, c'était Guillaume Hirslot. Alors, Guillaume Hirslot, lui, il viendra dans les agités bientôt, on espère. Et Guillaume Hirslot, eh bien, c'est un blogueur, prof, et il fait aussi un podcast d'ailleurs sur l'univers Windows en mobilité. Et on espère le recevoir pour qu'il nous dise comment il fait pour utiliser eh bien les outils Microsoft dans sa classe. Donc ça va être un numéro assez sympa. Et aussi dans les petites annonces comme ça des copains, il y a Adrien Payet qui organise un concours sur son nouveau site dont je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Donc c'est un site toujours de théâtre et de FLE, et le concours qu'il propose, c'est un concours photo et vidéo où il s'agit de mimer ou de filmer une expression française.
Expression.
Ouais, il faut la choisir dans une liste et puis la filmer ou la photographier et envoyer le tout pour participer au concours. Il y a plein de trucs à gagner. Il y a notamment le premier prix. C'est une formation, un séjour de formation dans le Mercantour, une formation théâtre FLE. Pascaline, tu nous dis ce qu'il y a au sommaire.
Ben oui, mais oui, Seb. Alors, au sommaire de ce numéro, on va parler d'un point qui tue, comme on le fait à chaque fois dans les agités de la classe. Et cette fois, ce sera la correction à l'oral. On va aussi vous présenter une ressource des agités, ce sera la vidéothèque. C'est Seb, c'est toi qui nous présenteras ton expérience, justement. On passe tout de suite au point qui tue, avec Seb.
Alors le point qui tue, on a décidé de s'intéresser aujourd'hui à la correction à l'oral, c'est pas quelque chose de simple, et moi ce thème il m'avait été inspiré, bon déjà parce qu'on passe tous notre temps effectivement à corriger dans nos classes, mais surtout par une lecture que j'avais faite du mémoire de master de Martin Eisenbeiss, un master qu'elle avait fait sous la direction de Francine Sicurel. Martine Eisenbeiss, on la verra aussi dans Les Agités du Fleu. Elle viendra nous parler de Tiss. Et donc, elle avait fait ce mémoire que j'avais dévoré, et qui s'articulait autour de 5 questions qui étaient: est-ce qu'on corrige, qu'est-ce qu'on corrige, qui corrige, quand on corrige, comment on corrige. Et nous, on va essayer de reprendre un petit peu ces 5 questions, alors sûrement sur 2 numéros. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu à est-ce qu'on corrige, qu'est-ce qu'on corrige et qui corrige dans la classe. Le tout, bien sûr, uniquement à l'oral. Alors déjà, hein, Fred et Pascaline, si je vous pose la question est-ce qu'on corrige, Pascaline, tu me répondrais quoi, toi ?
Je répondrais oui. Je répondrais oui. Je dirais que c'est une question cruciale. Hein. C'est vrai qu'il tombe à point nommé avec nos publics où la communication a une très grande part. Mais c'est vrai que ça vaut la peine de se poser la question de la correction, du traitement de l'erreur. Est-ce qu'on laisse l'erreur pour privilégier la production libre ou alors est-ce qu'on décide d'intervenir et à ce moment-là de quelle manière et à quel moment et est-ce que c'est l'enseignant, est-ce que ce sont les apprenants, quelle technique, quelle stratégie on privilégie. Donc voilà, je pense que si on regarde aussi un petit peu du côté de la théorie, tout le monde est d'accord pour dire que la remédiation est nécessaire pour éviter la création de mauvais automatismes ou la fossilisation de schémas linguistiques erronés. C'est ce que je pense. Et toi, Fred ?
Pardon, je laissais un petit blanc parce que je voulais juste une précision, c'est un peu tard. Mais parce qu'il y a marqué ici correction à l'oral, donc ça peut être... c'est la correction de l'oral à l'oral ou la correction de l'écrit à l'oral?
Ah ouais, moi j'ai compris la correction de l'oral.
Ouais, c'est ça, c'est la correction de l'oral, donc quand les apprenants parlent, pas quand ils écrivent.
D'accord, ok. Voilà. Ok, c'était juste pour vérifier ça.
Tu as raison, c'est vrai que c'est bien.
Mais donc quand tes apprenants parlent, Fred, est-ce que tu corriges?
Moi, non. m'avait perturbé. Moi, j'aurais plutôt tendance, en fait, à pas spécialement avoir une réponse directe, oui ou non. J'ai envie de dire que ça dépend. Ça dépend beaucoup du moment du cours, de l'activité, de ce qui a été demandé aux apprenants. Pour donner un petit exemple, de manière générale, on va dire à l'oral, tout simplement, si ça nuit à la compréhension, c'est-à-dire si je comprends pas ce que la personne veut me dire. Ou si, quand ils discutent avec d'autres apprenants et que je suis dans les parages, ça peut être dans un petit groupe, et que visiblement la communication passe pas, là je vais effectivement corriger quoi. Je vais corriger ça, c'est une autre histoire. Mmh. Mais en tout cas, je vais réagir. J'essaie en général dans ce cas-là de réagir un petit peu comme le ferait un natif, pas spécialement comme le ferait un prof en disant ah non là il y a un problème ou alors là c'est faux, mais plutôt pardon, je comprends pas, tu pourrais préciser, mais si ça nuit à la compréhension, oui, là, je vais intervenir, on va dire. Je vais utiliser le mot intervenir pour l'instant.
Tu commences à faire une belle transition vers le qu'est-ce que, mais vas-y, termine.
Non, j'avais terminé parce que j'essayais justement de pas aller trop vers le.
Ouais. Donc là, parce que effectivement après si tu dis oui ou si tu dis non à si tu corriges ou pas, forcément dans enfin plutôt si tu dis oui d'ailleurs, il y aura qu'est-ce qu'on corrige, comment on va sélectionner. Voilà. Ouais. Et tout à l'heure, alors Pascaline, tu parlais d'erreur. Et pour moi, ça a été assez compliqué de regarder la différence entre erreur et faute.
Ouais.
Et donc j'ai plusieurs réponses. Mm-hmm. Dans le cadre européen, je pense qu'il nous parle de faute quand on est capable de se corriger soi-même.
D'accord.
Et il parle d'erreur tout simplement parce que quand on fait un énoncé linguistiquement incorrect et qu'on n'est pas capable de corriger tout simplement parce qu'on n'a pas encore vu ce point linguistique, on n'a pas encore le niveau pour pouvoir se corriger.
Ouais, tout à fait.
D'accord.
Ouais.
Ah oui.
Mais alors, après ça va plus loin. Ouais. Après ça va plus loin parce que il y a ça c'est tu vois ça c'est une bonne définition pour les profs. C'est intéressant pour un prof de savoir quelle est la différence entre une erreur et une faute si elle est expliquée comme ça. Mais pour les élèves, la perception, pour les apprenants, la perception est différente. Donc là, c'est là où on peut avoir tout ce discours qu'on a déjà entendu sur la faute avec sa connotation morale, religieuse, etc. Encore que là aussi, je trouve ça discutable hein, en fonction des cultures des apprenants.
Oui, tout à fait. Et puis si, on n'est pas obligé de leur dire à chaque fois, d'utiliser, parce que la connotation de faute, etc., c'est beaucoup par rapport au terme en lui-même. Donc, si on ne l'utilise pas en cours en disant « tu as fait une faute, tu as fait une erreur », c'est pas la peine non plus de faire tout un débat là-dessus. Même si je suis d'accord complètement avec toi, en tant que prof, cette différence est importante parce qu'elle va sûrement... Elle va nécessairement, pas sûrement, elle va nécessairement influencer sur justement est-ce qu'on corrige, qu'est-ce qu'on corrige, etc.
Ouais. Par contre, c'est vrai que ça nous invite à réfléchir sur en tout cas le type de faute ou le type d'erreur. Est-ce qu'on peut avoir une typologie des erreurs? Et tu semblais aller dans ce sens, Fred, en nuançant et en disant voilà, ça dépend de quoi il s'agit, en fait.
Exactement, ouais.
Ouais, parce que en fait, quand on, moi j'ai fait le test, j'ai posé la question à ma mère, savoir, tu vois, comment elle réagirait, et je me dirais bon, est-ce que tu corriges? Elle me dit oui. Et je dis mais si t'as quelqu'un devant toi qui fait beaucoup de fautes, hein, je posais comme ça, je dirais mais qu'est-ce que tu corriges? Elle va me dire bah les grosses fautes. Et c'est là où ça devient intéressant de savoir qu'est-ce qu'une grosse faute. Et la réponse de Fred était tout simplement bah quand le message ne passe pas, c'est-à-dire quand je ne comprends pas, j'estime que là la correction devient prioritaire, parce que sinon on peut pas avancer. Hein.
Par exemple, oui, c'était une des possibilités. Donc là, ça nous amène à vraiment du coup, qu'est-ce qu'on corrige? Ou toi, Seb, tu avais d'autres choses par rapport à la question est-ce qu'on corrige?
Non, j'avais rien de plus à ajouter. Je pense que c'est vite fait, hein, de faire le tour de la question, dire oui, on corrige forcément, mais oui, on corrige pas tout le temps non plus, on corrige pas tout, donc nécessairement,
on a des priorités.
Il y a des priorités, ouais, et c'est là où dans le qu'est-ce qu'on corrige, il y a la priorité de la communication. Et après, il y a d'autres priorités que moi je fixe. Tout à l'heure, Fred l'évoquait avec le moment du cours, le type d'activité, etc. Mm-hmm. C'est vrai que en fonction de mon cours et de l'instant de mon cours, je vais me focaliser sur un type d'énoncé. Mais typiquement, quand on fait un peu d'activité grammaticale où on demande, par exemple, je sais pas moi, de donner des définitions avec c'est quelque chose, qui c'est quelque chose, que, etc. Mm-hmm. Je sais que je vais me concentrer un peu sur...
Sur la forme.
Je vais me concentrer sur la forme, mais je vais aussi me concentrer sur ce point de grammaire-là que je vois, parce que c'est ce qu'on travaille, et c'est à ce moment précis de l'apprentissage où finalement ça va participer un petit peu à ça, quoi.
On a des objectifs, en fait, on vise des objectifs et puis on adapte et on hiérarchise nos priorités et notre correction par rapport à ces objectifs. Lorsqu'on fait travailler une compétence grammaticale particulière, on va être plus insistant sur la forme parce qu'on est à la recherche d'une automatisation, en fait. On est un peu dans une logique behaviorist, hein, c'est un peu ça. Alors que si on est sur une production libre, où là, c'est la communication que l'on va rechercher, donc ce dont tu parlais, Fred, la compréhension, à ce moment-là, c'est pas nécessairement la forme grammaticale que l'on va corriger, puisqu'on vise autre chose, en fait.
Ouais, oui, c'est totalement. Ça, hein. Ouais. Si on a aussi le typiquement dans une tâche finale qui va correspondre à un discours à l'oral, en présentation par exemple, ou même en échange, ça c'est pas très grave. Du moment que, en général, dans une tâche, il y a une action qui doit passer, il y a un message peut-être qui doit passer. Si le message passe, c'est j'ai envie de dire, c'est même complètement secondaire si le français n'était pas parfait, parce qu'il y a tout un tas d'autres compétences de façon qui rentrent en jeu. Après,
oui,
voilà,
comme
tu le disais, dès qu'on est dans une période, si on est en train de systématiser certains points, là non, au contraire, l'erreur va être sanctionnée, entre guillemets, hein. J'ai pas la baguette derrière les gens, mais on va effectivement la faire remarquer, vu que c'est un moment du cours qui est fait pour ça.
Qui est consacré. Et puis, parmi les éléments qui interviennent, les paramètres qui interviennent et qui nous aident à définir le type de correction auquel on va être attentif, il y a aussi le niveau. Mettons qu'on est des débutants donc qui s'expriment et qui veulent utiliser une phrase avec avant et qui n'emploie pas le subjonctif, on va pas les corriger là-dessus puisque c'est quelque chose qui sera abordé, un point grammatical qui sera abordé dans des niveaux ultérieurs. Donc c'est pas là-dessus qu'on va se focaliser, en fait. Ça ne correspond pas aux objectifs visés, ça ne correspond pas au niveau visé. Donc on peut l'écarter. Ça nous permet de parler aussi de ce qu'on écarte, de ce qui ne fait pas l'objet d'une correction systématique aussi.
Ouais, alors là, peut-être petit point complémentaire, tu vois. Effectivement, quand t'as des structures, alors deux choses, hein, pour, en réaction à ce que tu viens de dire. Mm-hmm. Mais quand il y a des structures, par exemple, que les apprenants veulent employer et qu'ils maîtrisent pas. Par exemple, quand tu vois le il faut, ils vont utiliser il faut que. Moi, ça me dérange pas de leur donner la structure s'ils me la demandent, tu vois, sans leur dire que c'est du subjonctif, etc. Tu vois, il faut que
d'accord.
je fasse.
S'ils sont en demande, en fait.
S'ils sont en demande, ouais. Ouais, ouais. Et quant à la question de la correction, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, enfin là tu parles des débutants, c'est marrant parce qu'on en a tous les deux en ce moment, mais quand on va dans les niveaux intermédiaires, eh ben ça va devenir, enfin les attentes qu'on aura vont devenir beaucoup plus floues. C'est-à-dire oui, au niveau 1, je sais ce qu'ils ont vu, je sais ce qu'ils n'ont pas vu et tout. Et dès qu'on arrive dans les niveaux intermédiaires et un petit peu avancés, tu dis oula, ils l'ont vu ça ou pas? Et parfois quand tu dis je vais faire une correction et comme ils commencent à avoir de l'expérience, ils vont me poser des questions et je vais me retrouver à improviser une explication alors que les autres maîtrisent déjà. Tu vois, ça devient plus compliqué de sélectionner dans les niveaux un petit peu plus avancés parce que on est finalement on maîtrise un peu moins le niveau qu'ils ont. Ils ont été exposés par plein d'autres choses, à la langue française, par plein d'autres moyens. Mm-hmm. Et ça devient, il n'y a plus autant de contrôle. Avec les grands débutants, tu vois, tu contrôles toutes les structures qu'ils ont et tout. C'est,
Et oui, quand tu les suis comme ça sur tout un niveau, effectivement, tu sais les points qu'ils ont vus.
D'où l'importance d'ailleurs des objectifs dont tu as parlé à plusieurs reprises, Pascaline, parce qu'en fait, et d'où l'importance aussi d'énoncer les objectifs, de les annoncer parfois aux apprenants. Je pense que, je sais pas si on avait déjà parlé, mais c'est quelque chose qui revient assez souvent de toute façon. Mmh. Est-ce qu'il faut annoncer les objectifs aux apprenants? Comment le faire? Et un objectif annoncé, ces objectifs, souvent, ils vont se transformer d'ailleurs en critères d'évaluation. Alors, je parle ici d'évaluation en général, on n'est pas forcément dans des tests. Et le fait de les annoncer, les apprenants, après, du coup aussi, pour revenir à notre sujet de la correction, si les objectifs ont été clairement annoncés, ils savent ce qu'on attend d'eux, donc ils accepteront plus facilement la correction, parce que ça peut arriver qu'on ait, c'était pas un des thèmes d'aujourd'hui, de l'émission d'aujourd'hui, on peut avoir des apprenants qui peuvent être un petit peu réticents à être corrigés, mais s'ils sont clairement, le programme en tête et qu'on attend d'eux qu'ils arrivent à bien faire telle ou telle chose, ils vont comprendre peut-être que du coup on les corrige ou que quelqu'un les corrige sur ces points dont on a parlé.
Ouais, c'est vrai que cette partie-là de un peu de médiation où on explique quels sont les objectifs et en gros quels sont les objectifs visés, les compétences qui vont être acquises permet de guider en fait les étudiants et puis ça leur permet de leur donner une sorte de référentiel sur lequel s'appuyer. Et tu disais aussi tout à l'heure, Fred, qu'il n'y avait pas donc les compétences linguistiques qui étaient en jeu et qu'il y avait d'autres compétences qui y intervenaient et qui peuvent faire l'objet d'une correction. Par exemple, lorsqu'on est dans une situation de jeu de rôle, d'une situation qui doit se passer dans un pays francophone, les codes sociolinguistiques à ce moment-là deviennent importants et en fait ça peut être l'objet aussi d'une correction. Donc la correction est pas seulement sur la forme ou sur la compréhension, ça peut être aussi sur tout ce qui peut venir bloquer, interrompre la communication.
Oui, complètement, ouais. Et qui fait donc partie des objectifs et des critères qu'on a discuté et éventuellement parfois même discuté avec les apprenants dans le meilleur des cas.
Ouais, et puis si on en est sur les types un petit peu d'erreurs qu'on peut avoir, donc tu as dit linguistique, hein, ça va comprendre déjà pas mal de sous-types d'erreurs, que ce soit de la syntaxe, ça peut être de la prononciation aussi, ça peut être du lexique, ça fait beaucoup de choses à regarder quand on ou plutôt à écouter et c'est vrai que il faut pouvoir sélectionner un petit peu et le fait d'avoir un programme clair, des objectifs clairs pour les activités et puis aussi on parle d'unité dans les méthodes, tu vois, d'avoir ces objectifs là, ça va m'aider moi à sélectionner un petit peu ce que je vais avoir envie de corriger, quoi.
Ouais. Oui, complètement, ouais. Ouais.
Je pense qu'on va en reparler dans la partie comment justement, comment corriger, hein, sur quoi on s'appuie, est-ce qu'on a des barèmes, est-ce que c'est à l'intuition, je pense que c'est vrai que c'est une partie importante après pour mettre la correction en place.
Ouais. Et là, la dernière question de notre point qui tue, c'est le qui corrige. Elle est pas très compliquée, cette question, mais il y a pas énormément de possibilités de réponse. Il y a évidemment l'enseignant ou les apprenants. Ça vous arrive, vous, d'avoir des apprenants qui corrigent les autres apprenants?
Dans mon cas, je pense que je l'ai un petit peu laissé entrevoir, ou plutôt entre-entendre, vu que vous ne faites que nous écouter, dans mes réponses précédentes. Effectivement, oui, moi, ça m'arrive de manière générale, même pas ça m'arrive, il y a priorité à l'apprenant. Et alors, tu disais qu'il y avait deux réponses, soit c'était l'enseignant, soit c'est l'apprenant. Moi, j'aurais envie de faire une sous-catégorie. Je sais pas, je suis peut-être un peu trop pointilleux. Avec les apprenants, il peut y avoir l'enseignant, il peut y avoir l'apprenant qui a fait l'erreur et les autres apprenants. Il me semble que ça peut être une distinction intéressante. J'ai envie de dire, moi, dans mon ordre de priorité, ça serait l'apprenant qui a fait l'erreur, puis les autres apprenants, s'il n'arrive pas à se corriger lui-même. Donc là, on revient à la distinction que tu faisais, qui est intéressante. Erreur, faute, quoi que le CERL fait toujours. et vraiment, dans le dernier cas, en dernier recours, j'arrive en super prof pour étaler mon savoir. Non, mais de manière générale, ouais, j'ai cet ordre de priorité. Je ne sais pas trop pour vous.
Moi, je dirais que ça, c'est quelque chose qui s'installe. C'est-à-dire que on peut pas nier. Enfin, tu vois, moi, j'ai beaucoup enseigné avec des adultes. Et mais remarque, ce serait valable aussi avec des adolescents. Il y a toujours des représentations de ce qu'est un prof et de ce qu'est un apprenant. Et au début, dans les premiers contacts avec un groupe, dans les premiers cours. Le rôle perçu du prof, au-delà de l'animateur, l'informateur, c'est l'évaluateur. Et une correction, alors moi je le vois surtout avec mes adultes, une correction faite par un autre apprenant, il y aura toujours un petit peu un doute, une petite contestation. T'es sûr, sauf si effectivement c'était dû à l'inattention, etc. Mais en priorité, on attend les corrections du prof, tu vois. Et surtout, par exemple, pour la prononciation. C'est vraiment dur d'avoir des apprenants qui se corrigent entre eux. Peut-être sur les liaisons, ça peut marcher, mais sur un phonème, ça va devenir plus compliqué. Alors qu'en vocabulaire, ou tu vois, en lexique ou en syntaxe, ça peut se trouver un peu plus facilement, quoi. Mais il y a un petit travail à faire pour décomplexer. On parlait de fautes et erreurs, hein, quand même corriger. Il y a toujours cette notion, alors ça c'était très bien dit dans les travaux de Martin Eisenbass que j'avais lu, cette notion de face de l'apprenant et du prof, on pourrait expliquer ça par l'amour propre un petit peu. Quand tu te fais corriger par quelqu'un, tu vois, tu admets que tu as fait quelque chose qui n'était pas correct et qu'on t'apporte une remédiation, et quelque part, eh bien, tu as un jeu comme ça de supérieur inférieur qui se met en place, mais c'est naturel un petit peu, tu vois, et il faut réussir à le décomplexer en classe après.
Moi, je trouve que les trois approches sont intéressantes. La relation enseignant-apprenant, qui paraît plus traditionnelle, mais là encore, ça dépend de la manière dont on va la mettre en place. Et je pense qu'on en reparlera dans la partie comment. Est-ce que le prof se place en juge et met la correction comme une sanction, ou dans ce cas-là, il y a un risque de perte de face? Ou alors, est-ce que cette correction est plus discrète? Est-ce qu'elle est guidée? Est-ce qu'elle est contrastive? Est-ce qu'elle permet à l'apprenant lui-même, justement, de réfléchir et de revenir sur son erreur? Et pareil, lorsqu'on fait appel au reste du groupe pour avoir une correction entre pairs et se mettre un petit peu de côté, je pense que selon les moments, selon la dynamique du cours, ces trois approches sont complémentaires, et c'est plus l'attitude en fait du prof qui semble vraiment importante là-dessus pour dépasser un petit peu non pas ce rôle d'évaluateur qui lui sera attribué, ne serait-ce que du fait des représentations mentales de ses étudiants, du fait de leur projection, mais du rôle de juge en fait, qui peut stigmatiser ses élèves, les amener à renoncer à la prise de parole, ou même tout simplement à diminuer leur prise de parole pour être le plus économique et le plus efficace possible et prendre le moins de risques de perte de face, en fait.
Ça peut arriver, mais encore les problèmes de face, tu vois, avec l'enseignant, c'est pas le plus problématique, c'est vraiment entre deux apprenants qui sont typiquement normalement au même niveau, et quand un corrige l'autre, selon comment ça se fait, Si c'est spontané, si c'est sur le... Alors là, tu parlais tout à l'heure de l'attitude, mais c'est aussi avec les activités, tout ça. Mais effectivement, on en parlera dans un autre numéro. Ça peut plus ou moins bien passer.
Ouais. Oui, ben je pense que Pascaline aussi, tout ce qui est problème de face, elle connaît bien, quoi. Ouais. Ayant enseigné en Chine, moi avec le Japon, j'avoue que ça fait partie, c'est tout le temps là. Donc effectivement, je rejoins ce que dit Pascaline. C'est plus pour moi après le quand et le comment qui vont faire que il risque d'y avoir un problème. Mais tu fais complètement, t'as bien fait d'en parler, parce que peut-être que pour Pascaline c'est un petit peu pareil aussi. Pour moi, ça fait tellement partie de l'enseignement. Au Japon, il y a tellement, c'est tellement présent que je l'oublie. je l'oublie dans le sens où je par exemple là quand on en parle, je pense pas forcément à aborder ce thème, alors qu'il est en transparence dans toutes les décisions qu'il y a à prendre en fait dans la classe. Ouais.
Ouais. Bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, mais alors ce sera important de garder toutes ces remarques un petit peu à l'esprit. On reviendra dessus et puis on ira un peu plus loin donc dans le prochain numéro où on parlera effectivement de quand on corrige et de comment on corrige. Et un point qu'on n'a pas évoqué, et pourtant ça m'arrive souvent, c'est aussi quand l'apprenant corrige le prof. Alors ça se fait pas beaucoup à l'oral, mais moi je sais que en général quand j'écris au tableau, j'ai toujours plein de trucs en tête, la réponse qu'on par exemple si on m'a posé une question, etc., ou alors on me parle en même temps que j'écris, etc., et je fais mais énormément de fautes, mais tu vois, des fautes, des fois je pense à une phrase et j'écris ce à quoi je pense, alors que ça correspond pas du tout à la phrase que je devrais être en train d'écrire, tu vois. Donc bah, je suis pas trop multitâche, et là aussi donc il y a les apprenants qui me corrigent. Moi je le prends avec pas mal d'humour, mais je sais que quand t'es pas francophone, par exemple, quand t'es un prof de français langue étrangère et que le français n'est pas ta langue maternelle, je me suis mal exprimé en disant pas francophone, pardon. Je sais que ça peut être gênant aussi de se faire corriger par un apprenant.
Complètement, ouais. Je pense que là c'est vraiment délicat. Hein. Comme tu le disais, je pense que la plupart des profs natifs le prennent avec humour. En tout cas, ouais. J'espère. Quoi. Moi, je me vois mal en colère.
Oh mais non, madame, c'est pas grave.
Non mais tu sais, un peu de mauvaise foi comme ouais, Coluche.
C'est ce que j'allais dire.
Je l'ai fait exprès.
C'est ce que j'allais... Alors oui, non, mais ça aussi, ça je le refais souvent. Par contre, j'allais dire, c'est une anecdote que j'ai entendue où effectivement, en plus c'était lors d'une évaluation dans le cadre d'une démarche qualité, hein, où un prof était du coup observé et il a enseigné, il avait fait une erreur et on lui a posé une question dessus. Et en fait, on va dire qu'il s'est enfoncé, il est resté dans son erreur et il a même transformé en règle de grammaire. Donc... Faut faire attention à ça. Je dis pas ça pour critiquer l'enseignant. On le sait tous, hein, quand on est dans le feu de l'action, selon comment ça se passe, on n'a pas toujours la présence d'esprit de se dire bon, attends deux secondes, respire un bon coup, et puis vois un petit peu ce qui est le mieux qu'il y a à dire. Mais donc ça peut arriver effectivement. Et là, on peut s'enfoncer.
Oui, c'est absolument ce que j'écris, parfaitement, parfaitement. Le passé composé est totalement invariable, même avec le verbe être. Et puis le lendemain, tu dis oh, vous avez du mal à me comprendre.
Voilà.
Le prof malhonnête.
Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Bon, mais je vous propose de s'arrêter là, alors, pour ce point qui tue, qui reprendra dans la deuxième partie, avec les questions, donc, quand est-ce qu'on corrige et comment est-ce qu'on corrige ? Et maintenant, c'est l'heure de la ressource des agités. Alors, dans la ressource des agités, et même les ressources des agités, cette semaine, on en aura deux. D'abord, c'est toi, Pascaline, qui voudrais nous parler de vidéothèque. Peux-tu nous en dire plus ?
Oui, alors la vidéothèque, Fred, eh bien, c'est un site que j'ai découvert comme ça lors de la veille pédagogique, hein, que je réalise pour Agitox, comme toi et le reste de l'équipe. Seb, Amandine et Tiffany. Et donc, j'ai trouvé cette mise à disposition de toute une petite vidéothèque de manière gratuite, bien, bien agréable, et puis qui peut constituer aussi une ressource toujours intéressante pour les enseignants de FLE. Alors, le truc, c'est qu'il s'agit d'une vidéothèque consacrée au développement durable, à l'écologie, aux initiatives, en fait, qui peuvent rendre un monde plus écologique, plus durable, plus solidaire. Et c'est vrai que je trouvais ça assez intéressant. Alors, cette vidéothèque, elle a été créée par Efficycle. Et Efficycle, c'est une jeune entreprise toulousaine qui a été créée il y a quelques années et dont l'activité principale, c'est de faire de la veille. De la veille, non pas pédagogique, mais de la veille thématique, donc autour des termes du développement durable, notamment. Et puis de diffuser, en fait, le résultat de leur observation. Donc, ils travaillent sur énormément de ressources. Et puis, la trace de leur travail, ce sont toutes ces petites vidéos qu'ils ont repérées, qu'ils ont mises en ligne. Puis, c'est aussi un hors-série qui peut être téléchargé, qui recense 365 initiatives dont le but est de réinventer le monde. Et là, l'objectif est d'inspirer, en fait, les gens à travers ces initiatives, d'inspirer des projets, soit à des individus, soit à des collectivités. Voilà, donc je trouvais que le projet était assez beau et puis en plus ça peut constituer des ressources avec ces petites vidéos, donc ça vaut vraiment la peine d'aller y jeter un œil et de voir ce qu'on peut exploiter lorsqu'on aborde avec des B1, des B2, justement la thématique du développement durable ou lorsqu'on prépare au DELF ces niveaux-là.
Ouais, et puis les projets sont sympas. Moi, j'avais regardé ça un petit peu hier en préparant hier ou avant-hier, je sais plus. Et c'est vrai que bon, déjà le site est joli, ça fonctionne bien, la navigation se fait bien. Et c'est vrai que j'avais trouvé plein de petites vidéos sympas sur des projets ou même quand c'est des vidéos plus longues, finalement il y a plusieurs parties et tout. Et donc ça fait une belle mine de documents authentiques. C'est très sympa.
Ouais, le site est facile d'utilisation, il est assez agréable. C'est vrai, assez séduisant, tout ça. Simple, en fait, on voit qu'il veut pas en mettre plein la vie et puis l'entreprise est assez modeste, voilà. Et donc je trouve que tout ça réuni ensemble, ça valait la peine d'en parler dans ces agités de la classe.
Yep, c'est cool. Fred, tu voulais nous parler de Jurismatique ?
Oui, assez rapidement. Ben voilà, tu as annoncé Jurismatique. Alors Jurismatique, qu'est-ce que c'est ? C'est une ressource un petit peu spéciale. Bon, toutes les ressources qu'on choisit sont un petit peu spéciales, mais dans le sens où je pense que ça peut être une ressource pour la classe, alors avec certains types d'apprenants, je vais vous détailler tout de suite, mais éventuellement pour des profs qui se mettent en association, qui veulent monter leur entreprise ou quoi que ce soit. En effet, Jurismatique propose des documents en open source, des documents légaux en fait, tout ce qui est doc légal. Pour vous parler par exemple, il y a des contrats CDD, des contrats CDI, des cessations de droits de propriété intellectuelle par exemple, ou encore une charte de confidentialité. Ce genre de documents, c'est toujours ils utilisent des termes lexico-juridiques qui nous en tant que prof de FLE, on n'est pas forcément familier avec ces termes, on n'est pas non plus capable de reconstituer ce genre de document. Et si on veut en utiliser en cours, pourquoi pas dans le cadre d'un cours de FOS où ils ont besoin de, je sais pas moi, pour leur entreprise ou dans un contexte particulier d'avoir à rédiger ce genre de document ou même à pouvoir au moins les comprendre. Ben là, ça permet d'avoir ces documents donc en licence Creative Commons. Il faut juste citer l'auteur et il n'y a pas d'utilisation commerciale de possible, mais sinon ils sont totalement en accès libre de tous ces textes un petit peu juridiques. Voilà, donc je trouvais ça intéressant pour la classe, donc pour des cours un petit peu particuliers. On a une source facile et c'est légal d'utiliser ces textes. Et donc pour les profs qui ont envie de monter leur entreprise, qui ont déjà fait, qui ont des sites internet, qui veulent monter une association, etc. Si on n'a pas les moyens d'avoir ce genre de document, je sais pas si normalement on passe par un notaire ou quoi que ce soit, ben là ils sont mis à disposition. Donc je trouve que c'est une super initiative. Le site internet est très très clair. Donc voilà, allez jeter un œil, on mettra, comme pour tout le reste, le lien dans les notes de l'émission.
Ouais, c'est cool ça, je vais regarder ça, ouais.
Ouais, ça a l'air vraiment intéressant là, quand on veut justement enseigner du français juridique, donc du FOS ou du français de spécialité, on est parfois à la recherche justement de ressources authentiques, donc c'est vrai que c'est parfait, c'est pas toujours évident, enfin on en trouve, mais là, si c'est regroupé sur un site, c'est vraiment pratique.
Et c'est pour la France, ouais, uniquement, exactement. ou Il y a aussi du droit, je sais pas, québécois ou des choses comme ça.
Ouais, non, tu me poses une colle, mais je pense que c'est l'initiative est française. Donc, vu le nombre de documents, à chaque fois, il n'y a qu'une seule version. Donc, je pense que c'est pour la France, effectivement.
D'accord.
Ouais, désolé.
Ben, je crois que c'est fini pour les ressources. Hein. On a fait le tour des ressources, donc on va passer à l'expérience maintenant. Donc c'est Seb qui va nous parler de son expérience et tu veux nous parler du cahier d'autonomie si j'ai bien compris. C'est quoi c'est...
Bon, en fait c'est tout bête, mais comme je disais tout à l'heure, hein, on n'a pas toutes nos salles de cours, donc on a dû proposer moins de cours. Et donc on peut pas ouvrir tous les niveaux parce qu'on a qu'une salle, une salle par langue au lieu de, tu vois, donc ça fait 6 salles au lieu de 21, entre 21 et 25 en temps normal. Donc on n'a pas pu ouvrir tous nos cours et on avait dit à nos apprenants qu'on essaierait de leur donner du contenu en ligne. Et pour l'instant on n'a toujours pas d'outils définis, si tu veux, pour faire des parcours, mettre des activités de, autocorrectives, ce genre de choses. Donc plutôt que de rouvrir un truc et puis de faire quelque chose de temporaire, on a décidé de faire des cahiers d'activités pour chacun de nos niveaux et qui comprendraient de la réception orale, de la réception écrite, des activités de grammaire, de prononciation et puis de lexique aussi. Et ben c'était assez sympa à faire parce que du coup on les a fait dans l'optique, dans deux optiques. Une première optique, ce serait de pouvoir plus tard les porter sur une plateforme et qu'ils soient un peu autocorrectifs. Et là du coup, ben on s'aperçoit que quand on veut faire quelque chose comme ça, ça nous limite vachement techniquement, parce que quand vous posez une question sur une vidéo ou sur un texte, ben l'apprenant, il faut qu'il réponde exactement la même chose que vous, si vous voulez que ce soit corrigé après par la suite. Donc ça nous pose des questions, en tout cas sur la transposition de ces cahiers-là. Et ça nous donne aussi la possibilité de, eh ben, quand on a des vacances, de donner un cahier de révision vraiment adapté à notre programme, donc qui suit vraiment bien les thèmes, mais aussi la progression qu'on a choisi, et comme ça ils peuvent continuer à travailler un petit peu pendant leurs vacances. Et
des cahiers de vacances.
Ouais, c'est ça, c'est des cahiers de vacances, mais c'est la première fois que je proposais ça de manière adaptée plutôt qu'un parcours, tu vois, avec des ressources qui viennent un peu de tout partout sur le web, d'essayer de faire quelque chose de vraiment adapté à un programme défini. Et ben c'est pas si simple que ça à faire, surtout si on veut qu'ils puissent le faire en autonomie. Donc là pour l'instant la solution la plus simple qu'on a trouvée, ce sera de leur donner ces cahiers de vacances, hein, appelons-les comme ça, et puis de leur corriger pour qu'ils puissent comparer les deux. Mais c'est assez formateur en fait comme activité. Au départ j'étais pas tellement convaincu et finalement c'est assez intéressant à faire.
Moi, c'est un sacré boulot quand même. Ils sont finis là les cahiers. Vous en avez fait plus beaucoup. Alors, ça représente quoi?
Non, on a volume. On a fait pour tous les niveaux. Alors notre objectif de départ, c'était de faire 6 cahiers par niveau. Donc pour les niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et finalement, on n'a pas réussi et on est plutôt à 2 cahiers par niveau, mais tu vois, ça représente quand même 14.
Bah oui, quand même.
14 documents de, ouais, je dirais entre 13, 20 pages, parfois plus, tu vois, d'activités, quoi.
Eh bien, ouais. Ouais.
Alors, en même temps, on enseigne moins, hein, tu vois. Moi, j'ai qu'un cours là, ce trimestre, donc. Fallait bien nous occuper.
Fallait vous occuper.
c'est assez rigolo.
Non, mais c'est super. Hein. Ça va être très formateur, comme tu disais. Pardon, excuse-moi, Pascal.
Je trouvais ça assez marrant, en fait. Vous avez beaucoup d'apprenants, mais vous n'avez pas les salles, alors qu'en fait, habituellement, le problème est plutôt inverse. On a les salles, mais il manque les apprenants. Je trouve ça assez rigolo aux Nations Unies, en fait.
Ouais, mais c'est assez particulier parce qu'en fait, nos cours sont gratuits. Tu vois, donc en fait, les apprenants payent s'ils s'inscrivent et qu'ils ne viennent pas, parce qu'ils ont pris la place de quelqu'un qui aurait voulu. Donc, mais effectivement, ouais, du coup, ça. Enfin, c'est toute une politique linguistique, si tu veux, avec des cours gratuits et le fait de pouvoir prendre le cours sur la pause déjeuner et dans ces cas-là d'avoir une pause déjeuner qui normalement, tu vois, de 1 heure rallongée à 1h30. Donc ils ont 30 minutes qu'ils prennent sur leur temps de pause déjeuner et 30 minutes que l'organisation leur offre pour suivre un cours. Donc ça, 3 fois par semaine, tu vois. Donc c'est en lien avec la politique linguistique qui est menée.
Ok, d'accord, ça s'explique. Voilà. Ok, je comprends. Ouais. J'ai pas eu cette expérience en alliance, en fait.
Ben non, c'est pas du tout le même fonctionnement, ouais.
Tout à fait.
Vraiment. J'imagine que c'est, vu que ça a été développé en interne, on n'a même pas la possibilité de voir un sommaire, un exemple.
Non, rien du tout, non.
Ah, non, tant pis. Ouais. Désolé. On allait sûrement nous poser la question, donc je préférais la poser direct.
Non, je peux rien.
Et elle était sincère de toute façon, je me doutais. Voir la charte de confidentialité et les documents que je vous ai donnés.
Ouais, mais ça ressemble vraiment au cahier d'activité qu'il y a avec les méthodes, avec, bon, tu vois, des vidéos en plus, donc des choses comme ça. Ça. C'est vraiment dans le même esprit, si tu veux, mais le fait de le personnaliser, de pouvoir l'avoir au plus près des thématiques et des programmes qu'on suit, nous, puisqu'on développe notre matériel.
Bien sûr, ouais.
Mais c'était plus formateur qu'ennuyant, alors qu'au départ, tu vois, c'était pas un projet super sexy.
Bah tant mieux, hein, tant mieux. Ça fait du bien d'avoir de bonnes surprises.
Ouais.
Des surprises sexy.
Voilà, bah, je pense que j'en ai terminé avec cette expérience. Alors évidemment, je le mets dans le truc, dans la partie expérience, parce que je vous parlerai du retour des apprenants et puis de si on aura le temps de développer ça pour le faire à tous les niveaux, pour rajouter encore des cahiers, etc. Donc je vous tiendrai un petit peu au courant. Et puis surtout, la transposition en ligne, parce que pour l'instant, le fait de proposer un cahier et puis son corrigé, pour moi, c'est pas l'idéal. J'aimerais essayer de travailler autour de solutions, de PDF interactifs, etc. Donc il y a des choses qui existe. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'outils satisfaisants, mais je vous ferai pas régulièrement de mes recherches.
Mais voilà, il manque pas.
Ouais. Donc c'est terminé pour cette expérience et puis c'est aussi terminé pour ce numéro.
Mais oui, les agités de la classe numéro 5, donc c'est fini pour cette fois-ci. On vous remercie à tous de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre et surtout encore plus nous contacter via tous les réseaux sociaux, la page Facebook, sur Google+. Si vous êtes vraiment dans le son, on a notre compte SoundCloud. On vous rappelle que sur SoundCloud, vous pouvez mettre un commentaire à la minute près. Donc vous pouvez nous signaler quand on a bœuf. À la seconde près, pardon. Voilà, par exemple, quand Fred a dit une bêtise, vous pouvez le corriger. Sur PodCloud aussi, on peut nous suivre. On a maintenant la page LinkedIn, il y a le compte Twitter. Vous pouvez utiliser l'infolettre aussi. iTunes, bien entendu. Vous êtes peut-être abonné à notre podcast via iTunes. Si vous l'êtes, n'hésitez pas à nous laisser un petit review. Ça se dit comment en français, ça, review? Je sais pas, j'ai mon compte en anglais. Mais n'hésitez pas, laissez-nous un petit avis, vous pouvez nous noter, nous rajouter un petit commentaire, un commentaire, mais on peut mettre des petites étoiles, ça nous fait toujours plaisir et puis ça nous aide. Et puis bien entendu, vous avez la possibilité de laisser un commentaire sous le billet sur le site Agito, là où vous retrouverez tous les liens des différentes ressources et projets dont on a parlé dans l'émission. On remercie d'ailleurs tous ceux qui nous ont déjà laissé des commentaires, qui partagent sur les réseaux, qui nous encouragent, qui ont participé sur le forum de préparation des numéros. Il y en a toujours en préparation, il y en a, ça dure, mais ça arrive, on vous le promet. Et voilà, au revoir à tous nos auditeurs, nos poditeurs, au revoir à Pascaline, au revoir Seb.
Ouais, salut à tous les deux, salut à tous les auditeurs. Ouais.
Allez, bon concours à tous et à la prochaine. Ta 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 ta
ta ta ta
ta ta ta
ta ta ta ta
ta ta ta ta ta ta ta
ta ta ta ta ta ta
ta ta ta ta ta ta ta.
Bonjour et bienvenue dans les agités de la classe. Aujourd'hui pour ce numéro 4, c'est ça, c'est le numéro 4 en fait.
C'était le début de... Les agités de la classe, c'est le numéro 4, c'était le début de cours.
Ah donc c'est le numéro 5.
C'est le numéro 5.
D'accord, c'est parti.
Déjà.
Ouais. Bonjour et bienvenue pour les agités de la classe et aujourd'hui pour ce numéro 4, eh bien il y a Pascaline.
Numéro
comme...
5.
Putain. 5,
le
5,
monsieur 5, te 5, dit 5, que...
5, 5, 5,
5. C'est où le Mercantour?
Bonne question. C'est dans le... C'est dans le sud, je crois.
Sud-est.
D'accord.
Ouais.
Ok.
Je crois.
je savais pas trop. Et puis on terminera avec une outro présentée par ça se dit pas?
Non, ça se dit pas ça.
Tu couperas?
Ouais, je couperai.
Bah non, je crois que c'est moi en fait. C'est ça, hein, c'est... je vous entends trop tard, donc du coup, je te coupe la parole.
Non, je pense que là, ça va. Hein.
Ah, donc c'est juste de l'impolitesse, hein, après. Que la plupart du temps, c'est qu'il y a... Le problème, c'est inverse. C'est en fait... Oh, je bredouille mon français, je sais pas, je perds mon français. Plus j'enseigne le français, plus je le perds.